Dans les pas de Pierre Clastre, immense anthropologue disparu trop tôt, les Gaulois contre l'État sera ce soir le thème du magazine de l'archéologie de France Culture. L'occasion d'aborder l'idéologie et la représentation du monde qui conduisirent les Gaulois vers certains systèmes politiques au détriment d'autres, comme de percevoir les territoires des peuples de cette Gaule encore indépendante. Cela tombe bien, voici peu, se tenait au Sénat, c'est-à-dire au cœur de l'État, un colloque autour de la fabrique des territoires de la France. On le sait, nos 35 000 communes sont les héritières directes des seigneuries médiévales, des paroisses de l'Ancien Régime, comme des limites des cités antiques. Mais pour autant, pourrions-nous remonter au-delà, percevoir dans la création de ces espaces politiques des temps encore plus anciens, celui des Celtes du premier millénaire avant notre ère, celui de l'âge du bronze, voire des toutes premières communautés agro-pastorales du néolithique, vieilles de quelques 7 millénaires. En 3 ou 4 décennies, l'archéologie de l'âge du fer, c'est-à-dire des Gaulois, a réussi à vivre une véritable révolution. Non seulement en élargissant ses fouilles, mais surtout ses problématiques, accédant ainsi à des champs jusqu'alors inabordés. Pour découvrir ce que nous devons au territoire gaulois, comme les choix politiques que firent ces sociétés, notre grand invité sera ce soir Sophie Crosse. Bonsoir.
Bonsoir.
Sophie Crosse, j'ai souvenir de vous, archéologue à l'INRAP, maître de conférences à l'Université de Bordeaux-Montaigne, et enfin de votre récente nomination à la Sorbonne au poste de professeur de proto-histoire à l'Université de Paris 1. Sophie Crosse, reprenons les classiques. Qui donc nous parle pour la première fois des territoires gaulois ?
Eh bien, le premier à nous parler des territoires gaulois, c'est bien sûr Jules César, dans son ouvrage sur la guerre des Gaules. Cet ouvrage qui a été un best-seller d'ailleurs à Rome quand il est sorti, et qui est en fait au départ un ouvrage militaire dans lequel il raconte ses campagnes militaires. Et d'ailleurs, ce livre, en 8 grands chapitres, commence par une description de la Gaule. Donc c'est au livre 1, chapitre 1, une description de la Gaule par César, qui nous dit que la Gaule est divisée en 3 parties, la Belgique, la Celtique et l'Aquitaine. Et ensuite, tout au long de cet ouvrage, il décrit les populations qu'il rencontre, qui vivent dans des territoires que nous appelons des tribus aujourd'hui, et qui correspondent à des peuples qui occupent des grands territoires, d'autres des petits. Et quand on met bout à bout toutes ces informations, on parvient à reconstituer environ 60 peuples différents, c'est-à-dire une soixantaine de territoires gaulois, plus ou moins grands.
Alors regardons la carte de César. Que nous apprend-elle ? Qu'il y a les Pictons, les Turons, mais aussi les Éduins, Arvernes, Carnutes, les Allobroges, qui, comme allochtones, ne veut dire qu'ils ne sont pas issus du lieu même. Certains laisseront des traces dans nos propres toponymies urbaines ou régionales, d'autres pas ?
Oui, effectivement. Alors, la plupart ont laissé des traces, c'est-à-dire que les noms que César cite comme des noms de ces tribus gauloises sont les noms qui subsistent encore aujourd'hui, comme les Bituriges pour le Berry, les Arvernes pour l'Auvergne, les Parisis pour la région de Paris.
Donc tous ces noms. Pour Nantes.
Exactement.
Il y en a plein.
Et oui, la plupart en fait n'ont pas disparu d'une manière ou d'une autre, aussi parce que ces populations ont subsisté à l'époque romaine, et puis leurs traces étaient toujours là à l'époque médiévale. D'ailleurs, les archéologues utilisent beaucoup les limites des diocèses médiévaux, qui sont des limites administratives religieuses et qui ont la réputation d'être calquées sur les frontières de ces anciens territoires gaulois. Donc les territoires gaulois sont toujours là, d'une façon ou d'une autre, dans nos paysages, dans nos limites de communes, nos limites de départements ou nos limites de régions.
Alors, peut-on penser qu'il nous faille encore remonter plus tôt pour percevoir la création de petits territoires comme ceux du Néolithique ?
Alors oui, c'est ce qu'on essaye de faire depuis quelques années. Dans plusieurs régions françaises, il y a des archéologues qui mènent des études tout à fait remarquables sur les territoires. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, ces études sont permises par le développement de l'archéologie, alors surtout l'archéologie préventive, mais aussi l'archéologie programmée, tous les types de prospections qui se sont développées aussi, les prospections pédestres, les prospections aériennes. En fait, toutes ces données qui sont très diversifiées nous permettent de reconstituer grâce aux répartitions de tous ces sites, de tous les indices, nous permettent de reconstituer des formes d'espaces occupés que l'on peut interpréter comme autant de territoires lorsqu'on a des données chronologiques qui sont suffisamment précises. Alors effectivement, on a dans toute une série de régions en France, donc la plupart des régions, des études sur les territoires. Et ces études sont très bien faites et très bonnes. Alors surtout dans les régions où les données archéologiques sont très riches.
Comme le Berry où vous travaillez.
Alors, par exemple, le Berry où je travaille.
Et
effectivement. Alors les Bituriges sont cubes à partir de l'époque romaine. C'est Strabon qui les appelle cubes, cubi, et qui les distingue d'autres types de Bituriges qui sont les Bituriges vivisques et qui, eux, vivent dans la région de Bordeaux.
Alors,
Bituriges. Oui. Alors, le territoire Bituriges, il correspond au Berry actuel, un petit peu plus grand que le Berry actuel, puisque le Berry est constitué de l'Indre et du Cher aujourd'hui. Mais le territoire des Bituriges était un petit peu plus vaste parce qu'il comprenait, parallèlement au département actuel de l'Indre et du Cher, un petit morceau du Loir-et-Cher et aussi un morceau de l'Allier qu'on appelle aujourd'hui le Bourbonnais. C'est un des territoires les plus grands de Gaule qui a sans doute été acquis au prix d'un certain nombre de conflits avec les voisins des Bituriges.
Au cœur de la Bretagne, une très récente découverte a fait beaucoup de bruit. La première carte d'un territoire de l'âge du bronze, ou peut-être un petit peu plus ancien, on pense peut-être éventuellement néolithique. Quel est votre point de vue sur la fameuse dalle de Saint-Bélec ?
Alors c'est effectivement une découverte absolument extraordinaire. C'est certainement la plus ancienne carte, en tout cas sur notre territoire. On a des exemples de cartes topographiques dans d'autres civilisations, en Mésopotamie et ailleurs. Mais en France, évidemment, c'est la première fois. Alors, elle n'est malheureusement pas datée très précisément, puisque le tumulus dans lequel elle a été découverte est daté entre 1900 et 1600 avant Jésus-Christ, mais il est probable que cette carte soit plus ancienne. Ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'elle représente très clairement un réseau d'enclos. On y distingue un site de hauteur, mais aussi des parcelles, qui nous indiquent que des parcellaires existaient déjà. Donc une organisation du territoire, une organisation du paysage également. Et il y a des routes qui sont dessinées et qui s'intègrent dans ce parcellaire. C'est une découverte tout à fait exceptionnelle et qui a en plus été particulièrement bien étudiée dans un très bel article publié dans la Société préhistorique française l'année dernière.
Moi, ce qui m'intéresse dans cette découverte, c'est que le territoire s'écrit par les cartes.
Oui, il s'écrit par les cartes, effectivement, mais cette représentation-là, qui se trouve sur une dalle qui fait quelques centaines de kilos, un millier de kilogrammes exactement, ne devait pas pouvoir se transporter pour se promener à cheval ou dans un chariot. Mais c'est vrai, on peut imaginer, à partir du moment où les gens étaient capables, au néolithique ou au cours des âges des métaux, de fabriquer des cartes, qu'ils pouvaient avoir des sortes de cartes, alors qui sont évidemment très différentes de ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, mais on peut imaginer qu'ils essayaient de s'orienter dans leurs déplacements, puisque ces gens se déplaçaient énormément. On sait que depuis la préhistoire, les gens se déplacent. Donc, ils devaient avoir des supports pour se déplacer. Alors, en tout cas, pour en revenir à César, c'est le cas de l'armée romaine. On sait très bien que César avait dans ses armées des géographes, des topographes, et qu'il existait des cartes pour l'armée romaine. Donc pourquoi pas chez les autres populations qui étaient traversées par ces armées.
Alors j'évoquais la révolution opérée par les archéologues autour de la période gauloise. Qu'en est-il exactement? Si l'on parle aujourd'hui des Gaulois, n'est-ce pas désormais grâce aux archéologues?
Oui, bien sûr, c'est l'archéologie qui aujourd'hui, c'est très probable, détient le plus grand nombre de données, la plus grande documentation sur les populations gauloises et même plus largement sur les populations celtiques européennes. Toutefois, on détient en fait des textes dont les plus anciens remontent au 5e siècle avant Jésus-Christ, bon comme le texte d'Hérodote par exemple, et puis bien sûr le texte de César qu'on évoquait tout à l'heure. Ces textes restent reste tout de même très important. Il constitue des sources, des jalons pour reconstituer l'histoire, même pour créer l'histoire et pour donner aussi une structure à l'archéologie et pour replacer les éléments archéologiques donc sur une trame historique. Donc c'est très important l'alliance des deux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les données archéologiques sont beaucoup plus nombreuses que les données textuelles.
Sophie Croce, construction territoriale n'est affaire que d'affirmation politique, certes, mais comment les proto-historiens abordent-ils la question du territoire aujourd'hui ? À travers l'analyse du politique, mais aussi de l'économie comme des sources historiques ?
Oui, alors il y a plusieurs manières d'aborder le territoire en archéologie, pour différentes périodes, pas seulement pour la proto-histoire. Dans la proto-histoire, les proto-historiens qui travaillent sur les reconstitutions de territoires travaillent dans des territoires où il y a déjà beaucoup de données archéologiques sur les habitats, sur les nécropoles, aussi, si on peut, sur les voies de communication, c'est très important. Et ensuite, on va travailler principalement à partir des données économiques, donc des objets qui circulent, des flux économiques dans tous les sens, des objets qui arrivent, des objets qui partent de ces territoires et qui vont permettre, en fait, de reconstituer déjà la dynamique du fonctionnement des territoires. Ensuite, il y a un second aspect, alors qui est plutôt de ma spécialité, qui est de comprendre le fonctionnement politique de ces territoires de par leur forme, c'est-à-dire la manière dont les sites sont organisés à l'intérieur de ces territoires. Est-ce qu'ils constituent des réseaux homogènes, hétérogènes, avec des distances égales entre les sites, par exemple, ou des types de sites qui sont très différents les uns des autres, ce qui supposerait une hiérarchie avec une capitale, des sites plus ou moins importants autour de ces capitales, ou pas de capitale et des sites qui ont le même statut. Voilà, ça, ce sont des choses que l'on peut aborder en archéologie aujourd'hui, donc sur les territoires dans lesquels nous avons beaucoup de données.
Plongeons dans le temps, au 5e siècle avant notre ère, entre la Saône et le Rhône, la Seine et la Marne, des territoires apparaissent. Les archéologues les perçoivent autour de sépultures exceptionnelles, ce que l'on appelle les tombes princières.
Effectivement, cette période de tombes princières qu'on appelle aussi les complexes princiers de la fin du premier âge du fer, que dans notre jargon nous appelons le Hallstatt, c'est précisément le Hallstatt final. Donc à cette période se développent des complexes princiers avec des sites dans lesquels l'urbanisation est déjà présente.
On a presque des villes, en effet.
Voilà, oui, alors certains archéologues pensent qu'il s'agit de véritables villes, d'autres ne sont pas tout à fait d'accord avec cela, mais on est peut-être dans un entre-deux. En tout cas, on n'est plus dans des agglomérations simples, ni peut-être pas tout à fait dans des villes, mais quelque chose qui est en train de devenir des villes. Alors, on a des systèmes politiques aussi qui ont évolué, qui vont avec, qui ne sont plus tout à fait des chefferies simples, comme on les trouve à l'âge du bronze ou au début de l'âge du fer. Et il est probable que ces sociétés aient évolué vers un système de type étatique, c'est-à-dire peut-être qu'elles elles n'ont pas tout à fait des États, mais elles sont en train de devenir des États. Alors, l'archéologie, en fait, transparaissent ces nouvelles sociétés, ces nouveaux systèmes politiques, à travers les tombes princières extraordinaires, comme celle de la princesse de Vix, par exemple, ou du prince de Lavaux, découvert récemment. Et il y en a d'autres en Europe, comme au Glauberg, à Leuneburg, par exemple. Voilà, tous ces sites, en fait, qui constituent ce qu'on appelle les complexes princiers nord-alpins.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Sophie Croce, ces territoires pourraient être liés à des échanges, le commerce et par là même à ce que l'on pourrait appeler des routes. Nous serions alors face à des territoires dessinant un réseau d'itinéraires mis en place à l'échelle continentale.
Alors, pour la fin du premier âge du fer, oui, c'est quelque chose qui apparaît assez clairement aujourd'hui. Donc, on a dans cette zone nord-alpine une quinzaine de sites qui répondent à ces critères de complexes princiers. Le plus à l'ouest, c'est Bourges, dans le Berry, et le plus à l'est, c'est Zavist, en République tchèque, donc à 1000 km de Bourges. Donc, on a dans cette zone donc une quinzaine, ou peut-être une vingtaine de résidences princières qui ont probablement chacune leur système politique, mais qui font partie d'un réseau économique, alors avec un degré de dépendance qui est difficile à déterminer aujourd'hui. Beaucoup d'archéologues travaillent sur ce sujet. Donc il y a à la fois un réseau économique commun et des systèmes politiques individuels dans ces résidences princières. Et je pense que les systèmes politiques sont indépendants parce que ces résidences princières vont s'effondrer dans le courant du 6e siècle, du 5e siècle avant Jésus-Christ, entre 450 et 420 avant Jésus-Christ, mais pas tout en même temps. Ça va prendre une à deux générations. Et le fait qu'elles ne s'effondrent pas en même temps peut montrer justement qu'elles résistent à l'effondrement général, parce qu'elles ont des systèmes politiques qui leur permettent de résister encore un peu.
Tout ça est lié au vin, à l'étain, aux échanges, bien sûr, à des routes, entre guillemets.
Oui, dans ce système économique, il y a beaucoup de produits
qui circulent. Et du contrôle, par force.
Oui, alors des contrôles sur les rivières, alors comme sur la Seine à Vix, par exemple, ou sur le Danube à la Lüneburg en Allemagne, circulent effectivement des produits très précieux, des choses qui sont fabriquées dans les résidences princières, des parures, des armes, et aussi des choses qui proviennent, des objets qui proviennent d'Étrurie ou qui proviennent de Grèce et qui vont alimenter donc ces résidences princières et ces princesses qui sont très consommateurs de ces produits et qui vont se faire enterrer avec ces objets, alors comme le fameux vase de Vix, ce grand vase, ce grand cratère en bronze d'1,60 m de haut qui se trouvait dans la tombe de la princesse de Vix.
Ou le fameux chaudron du prince de Lavaux avec visiblement du vin dedans, c'est ça ?
Voilà, du vin à l'intérieur. Alors dans le cratère de Vix, on ne sait pas exactement ce qui s'y trouvait, peut-être du vin, peut-être de l'hydromel, comme on a trouvé des restes d'hydromel au fond du chaudron de Hordorf, par exemple, dans le sud de l'Allemagne.
Sophie Kraus, nous voici à une époque où sont présents des États en Europe, bien sûr, Rome et la Grèce notamment. Le phénomène princier gaulois serait dans une situation d'État émergent.
C'est probable qu'il soit dans cette situation, oui, d'État émergent. Alors, en fait, il n'y a pas énormément de différence chronologique entre l'émergence des premiers États à Rome et à Athènes. Ce sont des États qui datent du 8e siècle avant Jésus-Christ, même si ces territoires en Grèce ou à Rome existaient auparavant. Mais le système étatique de ces communautés apparaît au 8e siècle. Donc il semblerait effectivement que en Europe continentale et en Gaule, par exemple, que les premiers systèmes étatiques, donc dans les complexes princiers, apparaissent peut-être vers 600 avant Jésus-Christ, peut-être un petit peu avant, mais en tout cas, ils vont subsister pendant une très courte période, et tout ça va se terminer dans des incendies,
dans
catastrophes.
Dans un bain de sang.
Sans doute dans un bain de sang, en tout cas des catastrophes dans chacun de ces complexes princiers.
En tout cas, on peut imaginer que, bien sûr, les Gaulois avaient vu Rome et Athènes. Ne faut-il pas remettre en cause cette vieille conception, celle de l'État comme forme suprême de la complexité politique, les autres systèmes n'étant que des paliers intermédiaires pour y parvenir.
Oui, c'est la conception du 19e siècle dont il faut se défaire. Alors, il y a eu des travaux tout à fait remarquables des anthropologues fonctionnalistes anglais au début du 20e siècle qui ont montré que l'État n'était pas la forme suprême ou la forme idéalisée dans toutes les civilisations et qu'il existait dans certaines civilisations, dans certaines cultures, des formes politiques extrêmement élaborées, extrêmement puissantes, qui pouvaient durer pendant des siècles, voire des millénaires, et qui n'étaient pas la forme étatique. Donc c'est quelque chose qui est lié à notre civilisation, à notre culture, et l'absence d'État aujourd'hui, dans l'analyse que l'on peut en faire, aussi bien pour les anthropologues que pour les archéologues, ne doit pas être quelque chose qui est considéré comme une perfection, comme un vestige de civilisation, mais au contraire une forme politique parmi d'autres. Jusqu'à l'apparition des États émergents du premier âge du fer, il existait des systèmes politiques complexes et qui ont duré pendant très longtemps, pendant des centaines d'années, ce qui prouve qu'ils étaient des systèmes adaptés à ces populations, des systèmes équilibrés. Et qu'à un moment donné de leur histoire, en fait, ces populations ont basculé dans autre chose, dans un système de type étatique, correspondant à des besoins certainement spécifiques, peut-être liés à l'économie, peut-être liées à une augmentation démographique très importante, à des apports de populations extérieures aussi. L'État, en fait, c'est un système politique qui est caractérisé par des institutions. Donc c'est quand l'État apparaît, c'est qu'il y a un besoin de structurer l'administration de la communauté, mais tant qu'on n'a pas besoin de structurer, on n'a pas besoin d'État. Mais ce qui apparaît avec l'État aussi, et qui peut être visible pour les archéologues, c'est l'armée. C'est ce qu'on appelle le contrôle de la violence, hein, qui est un critère, alors qui a été développé par Max Weber au début du XXe siècle, et qui est un critère très important parce que en fait c'est le seul critère qui est commun à toutes les formes d'État, les formes d'État sont extrêmement variables à travers toutes les civilisations, à travers le temps. Mais la coercition, le contrôle de la violence, le monopole de la violence légitime, comme le disait Max Weber, c'est un point commun à tous les États et c'est une institution qui est une caractéristique de l'État.
Sophie Croce, émergeant vers 600 avant notre ère, le phénomène princier et l'État s'effondrent vers 420 avant notre ère. Aucun ne s'inscrit dans la durée. Que se passe-t-il ?
Alors, c'est encore très énigmatique ce qu'il se passe à la fin du premier âge du fer. Ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des sites, il y a des incendies, parfois en plusieurs étapes. Bon, par exemple, à Lunebourg, qui est un des sites les mieux connus dans le sud de l'Allemagne, il y a deux incendies. Après le premier, l'agglomération est reconstruite, mais après le deuxième, c'est terminé, elle ne sera jamais reconstruite. Donc ce deuxième incendie intervient vers 450 avant Jésus-Christ. Ça peut être des problèmes extérieurs, mais c'est plus probablement des problèmes internes qui peuvent être liés à cet énorme réseau économique qu'ils avaient tissé entre eux, qui a pu avoir des problèmes. Peut-être que les Méditerranéens, les Grecs et les Étrusques ont modifié leurs demandes envers les princes hallstattiens et que donc ça leur a posé des problèmes. Ils ne pouvaient plus écouler leurs produits, mais il est aussi possible qu'ils aient eu des problèmes politiques internes et que peut-être leur population n'ait pas supporté le système politique qu'ils étaient en train de mettre en place, un système politique trop dur. Et c'est là que la société contre l'État intervient peut-être.
C'est ce que vous pensez ?
Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que je n'ai pas de conviction, parce qu'en tant qu'archéologue, on ne peut pas être convaincu. Mais oui,
c'est une hypothèse de travail.
C'est une hypothèse de travail très forte, sur laquelle je travaille depuis plusieurs années et pour laquelle je cherche des indices archéologiques, hein, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des belles idées. Surtout que cette idée n'est pas de moi, elle est de Pierre Clastre.
Justement, pour autant, peut-on, dans les pages bien sûr de Pierre Clastre, dire que les Gaulois étaient contre l'État ?
Alors peut-être que au premier âge du fer, oui, ils sont peut-être contre l'État. Si on arrive à prouver que la destruction des résidences princières est liée à des causes internes, principalement à des causes internes, on peut imaginer que ces destructions sont liées à la révolte d'un certain nombre de populations qui ne supportaient pas la manière dont les élites les conduisaient et qu'ils se sont révoltés et qu'ils ont détruit leurs élites. Comme indice archéologique qui me paraît très important, c'est la destruction des deux statues de Vix qui ont été découvertes par Bruno Chaume dans un sanctuaire il y a quelques années.
Pas très loin de la tombe de Vix d'ailleurs.
Tout à fait. Et on a trouvé dans ce sanctuaire deux statues, quasiment grandeur nature, une statue
une
de femme
et un homme.
Et un homme sans tête.
Et les
têtes, voilà, décapitées. Ces têtes, on ne les a jamais retrouvées. Et la destruction de ces statues date vraiment de la fin du site de Vix, donc de la destruction du site de Vix, sur lequel on a trouvé aussi, comme à la Lunebourg, des vestiges d'incendie. Et donc, il est possible que la décapitation de ces statues soit une sorte, en fait, de décapitation symbolique des élites pour montrer que le peuple n'était pas d'accord avec le système politique et qu'il a destitué réellement les élites et décapité symboliquement ces statues qui ont ensuite été enterrées à l'entrée du sanctuaire.
Quelle structure politique se substitue à l'État et à l'effondrement donc de ces princes et de ces principautés ?
Alors c'est très
pas
difficile. Alors c'est très difficile à dire parce que après le 5e siècle avant Jésus-Christ, alors les élites ne disparaissent pas, on les voit toujours, on a toujours des sépultures relativement riches mais pas aussi riches que ce qu'on avait vu à la période précédente. Donc elles ne disparaissent pas, mais il n'y a jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ en Europe aucune trace de grandes agglomérations Donc c'est quand même pendant plusieurs siècles. Hein, on a l'impression qu'ils sont un peu vaccinés contre des systèmes politiques un peu complexes et des agglomérations
fort,
et des villes. Oui, c'est quelque chose qu'ils ont repoussé certainement pendant très longtemps. Hein. Il a fallu sans doute beaucoup de générations pour que l'idée de refaire des villes, de se réinstaller dans des villes avec des systèmes politiques un peu plus complexes, sans doute aussi plus de population, reviennent en Europe.
L'État n'émerge à nouveau que bien plus tard, le 3e siècle avant notre ère, est-ce bien ça ?
Alors c'est probable, en fait on voit apparaître au 3e siècle avant Jésus-Christ, en Europe centrale d'abord, des grandes agglomérations sur plusieurs dizaines d'hectares. Ce sont des grandes agglomérations avec de nombreuses activités artisanales, ce sont des grandes places de marché, donc on voit un système économique qui reprend, et c'est l'époque d'apparition de la monnaie en Europe, qui est aussi un symbole très fort, qui est une institution économique très forte.
Et un très bon marqueur territorial.
Territorial et de l'État aussi, hein, en tout cas des États naissants. Alors c'est difficile de dire si ces grandes agglomérations du 3e siècle, qui vont exister aussi jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est très difficile de dire pour le moment si ce sont déjà des États. C'est certainement une marche vers l'État. Mais c'est à la période suivante que les choses vont se concrétiser.
À la fin du deuxième siècle ?
Voilà, au tournant du deuxième et premier siècle avant Jésus-Christ, avec l'apparition des oppidas en Europe, donc ces grands sites fortifiés qui vont se développer, là, on a certainement la marque des premiers États.
Donc les oppidas, les villes, les sites fortifiés sont le marqueur de nouveau d'un nouvel État gaulois ?
Alors, c'est plus précisément le marqueur d'un système centralisé. Est-ce qu'il s'agit d'un système étatique ou d'un autre type de système politique ? C'est très difficile de le dire. Voilà. Donc, c'est précisément l'objet de mes travaux, l'objet de travaux d'autres chercheurs, hein, comme Patrice Brun, par exemple, qui est professeur émérite à l'Université de Paris 1, qui est mon collègue.
Habitué de l'émission.
Voilà, avec lequel je travaille sur ces questions. Voilà, c'est un. On ne peut pas dire comme ça d'emblée que c'est l'État qui apparaît. L'État aussi chez tous les peuples gaulois, hein, puisque on l'a dit tout à l'heure, les peuples, les 60 peuples que César inventorie dans la guerre des Gaules sont indépendants les uns des autres. Certains ont certainement développé des systèmes étatiques très tôt, comme les Éduins.
Et certains frappent monnaie commune aussi, très important.
Oui, c'est possible.
Avec des alliances, donc.
Oui, tout à fait.
Entre cités.
Alors, ce qui est possible aussi, plus anciennement, il est probable, on a quelques vestiges de ces faits dans la guerre des Gaules et dans d'autres textes latins. Il est probable qu'il y ait eu en Gaule une royauté, enfin ce qu'on appelle la royauté suprême, donc un roi des rois. Qui avait un rôle politique très important, fédérateur, au niveau de la Gaule. Alors c'est le cas de Ambigatus, par exemple, qui est cité par Tite Live et qui aurait vécu vers 600 avant Jésus-Christ et qui était le roi de la Gaule et qui indique probablement cet échelon, un échelon d'alliance militaire des Gaulois, mais qui a disparu avec le temps, sans doute avec l'apparition de systèmes politiques différents chez ces populations. En tout cas, à l'époque de César, ce degré de royauté n'existait plus.
Et puis on se souvient, bien sûr, que Celtilios, père donc de Vercingétorix, fut assassiné alors qu'il souhaitait avoir le pouvoir absolu. Sophie Cros, un grand merci. Vous reviendrez très prochainement pour nous parler donc de vos fouilles de la porte d'une grande cité, celle des Éduins, donc la cité de Bibracte. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Éric Boisset, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, où retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.